propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et points de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Nous parlons aujourd'hui de la sinusite. Comment soigne-t-on cette maladie? Vous savez, c'est une maladie courante qui touche beaucoup de personnes. Elle se manifeste généralement au niveau du nez. Et d'après les spécialistes, la sinusite peut prendre une forme aiguë, se manifester sous une forme aiguë ou chronique. Alors, quels sont les différents symptômes de la sinusite et comment soigne-t-on cette maladie? Docteur Jérôme Sokolo, spécialiste en otorhinolaryngologie. Et notre invité, docteur, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous parlons aujourd'hui de la sinusite. La première question, pouvez-vous nous présenter cette maladie? C'est quoi la sinusite?
Ok, il faut dire que, merci d'abord, monsieur Kachama, pour cette question très importante qui concerne, bien entendu, l'opinion nationale. Il faut dire que la sinusite est définie comme étant une inflammation de la muqueuse des sinus. En fait, vous avez là plusieurs sinus. Vous avez les sinus antérieurs qui comprennent pratiquement le fronto, les maxillaires et les ethmoïdaux. Et vous avez les sinus postérieurs où vous avez le sinus fémoral et bien entendu le sinus ethmoïdal postérieur. Et c'est comme ça que nous définissons en fait une sinusite. Elle peut être aiguë comme chronique. Lorsqu'elle est aiguë, c'est quand vous avez des signes rhinologiques, c'est des signes intéressants à la muqueuse, des signes d'atteinte de la muqueuse nasale, qui perdurent dans les 12, pendant au moins 12 semaines. Et lorsqu'elle est chronique, lorsque ces signes vont au-delà, n'est-ce pas, de 12 semaines.
Oui,
voilà
donc,
en fait comment nous pouvons définir une sinusite.
Oui, vous dites que c'est une inflammation de la muqueuse du sinus. Et c'est quoi, voilà. c'est quoi les sinus en des termes beaucoup plus simples?
Très bien. Les sinus ici sont considérés comme étant de cavités qui contiennent de l'air. Mais que ces cavités, c'est quand on parle des sinus paranasaux, donc ces cavités sont creusées dans certaines os de la face. Et porte bien sûr les noms de ces eaux-là. Donc c'est comme ça qu'on définit les sinusites. En fait, ce sont des structures cavitaires incluses dans les eaux et qui communiquent tous avec les fosses nasales. C'est ça qu'on appelle sinusite.
Voilà. Et qu'est-ce qui cause
paranasaux, bien entendu.
Oui. Et qu'est-ce qui cause cette inflammation des sinus, de la muqueuse du sinus?
Oui, on considère ici plusieurs grands groupes de facteurs étiologiques. D'abord, le premier facteur, c'est ce qu'on appelle le facteur rhinogène, c'est-à-dire que la sinusite part d'abord du nez, et cela est expliqué par la continuité, les continuums muqueux, à partir des fosses nasales jusqu'au niveau des sinus, et également, cela peut s'expliquer également par l'obstruction, l'obstacle qui peut survenir au niveau du nez. Et les deux autres facteurs que l'on considère, ce sont les facteurs généraux où l'on prend en compte ici le terrain avec les problèmes de fragilité de la muqueuse qui survient le plus souvent. Et les troisième facteurs, ce sont des facteurs essentiellement bactériens. Donc vous avez plusieurs microbes, etc. Et la place de la pollution également n'est pas la moindre dans la genèse ou dans la survenue de la sinusite. Mais aussi, il y a d'autres facteurs de sinusite qui ont pour origine des atteintes dentaires, notamment les dents dépendent de la première, comme la deuxième molaire. Ça, essentiellement, c'est pour les sinus maxillaires. Voilà, en fait, en gros, les différents facteurs étiologiques.
Voilà, est-ce que le fait, par exemple, d'être exposé, d'être dans un environnement où on respire la fumée ou la poussière tous les jours, cela peut conduire à développer cette maladie?
Naturellement, parce que la fumée, comme on sait, induit ce qu'on appelle une cilioctase, c'est-à-dire que les cils qui doivent naturellement protéger la muqueuse vis-à-vis des agresseurs extérieurs, ces cils ne savent pas battre correctement et ça laisse libre cours à des accidents inflammatoires au départ qui peuvent finalement évoluer vers des accidents infectieux.
Voilà, donc
Avec la fumée, donc oui. Il y a altération du système d'épuration naturel et qui va faire que les germes vont stagner avec la stagnation des sécrétions et on aura bien entendu ce qu'on appelle les accidents infectieux dus à ces ralentissements du battement des cils.
Voilà, et comment se manifeste cette inflammation? Quels sont les symptômes?
Ah voilà, il y a plusieurs symptômes. En fait, nous avons les cils fonctionnels. En fait, les cils pour lesquels les cils que le malade va présenter, il va décider de consulter le médecin. Généralement, ils sont catégorisés par rapport à la forme aiguë et à la forme chronique. La forme aiguë, c'est la forme dont le signe inaugural est la douleur. Et la douleur intéresse ce qu'on appelle les aires sinusiennes, donc les points sinusiens. Quand il s'agit bien entendu des sinus frontaux, vous allez remarquer les douleurs aux dépens de l'air comme surface, aire de sinus. Et quand vous avez les maxillaires comme les ethmoïdaux, la douleur survient également aux endroits où se situe ce sinus-là. Et le deuxième signe, c'est souvent l'obstruction nasale. Le nez est bouché, l'air ne sait pas passer par les fosses nasales. Donc les sinus qui vivent de l'air, il y a une raréfaction de l'air. En ce moment-là, le défaut des nasses sera que les sinus vont avoir une colonisation bactérienne qui peut être à l'origine, n'est-ce pas, de cette inflammation. Et troisième signe qu'on peut avoir, ce sont des rhinorrhées, donc un écoulement. L'écoulement peut être antérieur, tout comme l'écoulement peut être postérieur. L'écoulement antérieur, au début, il est d'abord un écoulement sphéreux, puis muqueux, et finalement, il peut devenir purulent, selon l'évolution, n'est-ce pas, de l'affection. Et troisième, autre signe accessoire que l'on peut avoir, des troubles de l'odorat, notamment. Il y a des patients qui peuvent avoir de l'anosmie, de l'hyposmie, ou voire des cacosmies. Quand on dit anosmie, c'est-à-dire une abolition totale de l'acuité olfactive. Une hyposmie, c'est une baisse de l'acuité olfactive, etc. Et enfin, on peut avoir des signes objectifs où l'on peut, quand le phénomène est aigu, on peut avoir une douleur au niveau, ce qu'on appelle les points sinusiens, qui seront sensibles. Et l'on peut voir également, quand vous examinez votre patient, vous aurez à observer l'état de la muqueuse nasale et une muqueuse qui sera congestive, qui va perdre sa coloration rosée normale pour virer vers le rouge. Et vous verrez éventuellement des sécrétions au niveau des cavités, dans les cavités sinusiennes. Ces cavités aussi peuvent être soit séreuses, soit évoluer vers la suppuration, donc soit purulentes. Et enfin, vous avez les autres moyens complémentaires qui peuvent être réalisés. Dans nos milieux, nous réalisons des radiographies conventionnelles. Pour besoin, on peut recourir au scanner, n'est-ce pas, des sinus qui pourront nous permettre d'avoir facilement une idée globale de cela. Bien. Voilà, en fait, en gros, ce qu'on peut dire au regard de certains signes qui sont fréquemment rencontrés.
Nous parlons aujourd'hui des sinusites. Comment soigne-t-on cette maladie? Docteur Jérôme Sokolo, spécialiste en otorhino-laryngologie, est l'invité d'Okapi Service. Vous avez des questions et préoccupations par rapport à ces thèmes? Le standard est ouvert. Appelez au 081 890 63 94.
Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Comment soigne-t-on la sinusite? Docteur Jérôme Sokolo, spécialiste en otorhinolaryngologie, est notre invité. Alors, docteur, vous nous avez parlé des symptômes, vous avez parlé des douleurs, obstructions nasales, écoulement nasal et parfois purulent, des troubles de l'odorat. Alors, lorsque le patient présente ce tableau, quel est le traitement approprié?
Effectivement, il faut dire que Le traitement, en fait, est sur des principes généraux sur lesquels nous devons nous baser. Alors, le premier traitement doit consister, personnellement, à lever l'obstruction nasale. Je donne le principe parce que dans une émission comme celle-ci, ce n'est pas très bon conseiller de donner un traitement de comme un principe, quitte à ce que chacun, par rapport à ce sujet, puisse voir son médecin otorhinolaryngologiste de choix. Alors, je donne le principe, c'est que dans le principe, il faut se dire qu'il faut d'abord lever l'obstruction nasale. Donc, vous devez lever le nez qui est obstrué. Nous donnons généralement des vasoconstricteurs, des décongestionnants en un. Deuxième principe, c'est que vous devez lutter contre le blocage ostial. Quand il y a un ostium qui est bloqué, vous devez lever cela en s'attaquant, bien sûr, à l'inflammation. Et troisièmement, vous devez lutter contre l'infection. Parce que quand l'air ne sait plus passer par les sinus, et c'est l'infection en fait qui va s'installer, et c'est comme ça qu'on peut avoir des problèmes. Donc voilà les principes. Quand il faut lever l'inflammation, il est conseillé de donner des anti-inflammatoires. Et quand il faut lever l'infection, combattre l'infection, on donne bien entendu des antibiotiques. Voilà les grands principes sur lesquels se base, se fondent. Et un autre principe sur lequel nous n'insistons pas trop, c'est on doit agir également sur les facteurs, sur les terrains du malade. Il y a des personnes qui sont sur un terrain, il y a des personnes sur un terrain allergique, il y a des personnes qui sont dans un terrain où ils présentent une fragilité muqueuse conditionnelle, et tous ces différents terrains sont explorés par l'otorhinolaryngologiste, quitte à voir comment réagir à la thérapie. Mais du moins, les principes sont ceux-là, lever l'obstruction nasale. Tant que vous n'avez pas levé l'obstruction nasale, vous n'avez rien fait, vous devez lever l'inflammation et ensuite faciliter à ce quand il y a inflammation, donc il y a soulever de l'infection et on peut alors à ce moment-là soigner l'infection comme il se doit. Voilà les trois grands principes sur lesquels se fondent les traitements de la sinusite.
Voilà, est-ce qu'à un certain moment on peut recourir aussi à la chirurgie?
Oui, dans des formes chroniques, oui, le recours à la chirurgie est également exigé. Faut le dire, je n'ai pas abordé tellement la forme chronique ici, mais dans la forme chronique, les symptômes sont quasiment les mêmes, mais dans la plupart des cas, la chronique évolue de manière insidieuse, à bas bruit. Parfois, les patients qui ont une chronique ne savent même pas qu'il en a. Et des fois, il y a des formes où vous avez la persistance de ces mêmes signes au-delà des 3 mois. Alors, on peut avoir à ce moment-là le recours à la chirurgie peut être recommandé selon les aspects typiques anatomo-cliniques que l'on pourra observer auprès des patients. Mais il faut dire évidemment que les traitements chirurgicaux a toute sa place dans les formes chroniques. Et dans la forme aiguë, c'est quasiment rare. Et la littérature, ce n'est pas fortement recommandé.
Voilà. Donc, chez certaines personnes, on vous dit que c'est la maladie prend la forme chronique. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à la guérir et pourquoi elle persiste?
Oui, beaucoup de gens dans nos cabinets nous disent toujours que beaucoup ont l'impression que la sinusite est incurable. On dit n'importe quoi. Mais je dois rassurer l'opinion que la sinusite est une affection qui est bel et bien curable parce que les mécanismes physiopathologiques, étiopathologiques sont très bien connus et la thérapie existentielle, la thérapie adaptée, appropriée existe. Nous pensons que cette affection est bel et bien curable. Mais le gros du problème, c'est de savoir comment les patients arrivent à contracter cette sinusite et comment arriver, par rapport au principe que je vous ai donné,
arriver à traiter cette affection. Donc, le gros problème, c'est ce cas. Et ce qui dérange le plus de nos patients, c'est le problème terrain. Et là, le problème de terrain, il est très difficile de gérer. Vous avez des patients qui naissent avec des anomalies génétiques, le prédisposant à des allergies, par exemple. Mmh. Il y a des patients qui peuvent avoir des problèmes de fragilité constitutionnelle muqueuse. Vous voyez? Et tous ces différents problèmes prédisposent ou entretiennent le sujet à développer des accidents inflammatoires. En ce moment-là, on a l'impression comme si la sinusite n'est pas curable, mais en réalité, c'est un problème de terrain que nous n'arrivons pas à intégrer dans notre prise en charge. Des terrains de prédisposition qui font que parfois, l'on a des problèmes assez sérieux dans la mise au point et dans les traitements adaptés.
Bien, docteur Jérôme, nous avons un auditeur en ligne, Wanok, qui nous appelle de Bounia. Il a sûrement des préoccupations à soumettre. Wanok, bonjour.
Bonjour, bien donné, Joseph. Non, c'est les noms là, j'oublie un peu.
C'est Jody.
Oui, bonjour Jody, bonjour aussi à l'invité.
Bonjour.
Moi j'appelle de Bounia. La préoccupation que je veux dire, ça me concerne, c'est ce que j'ai vécu. Alors j'étais à 4e année secondaire et je souffrais de... On prenait ça comme si c'était justement la maladie qu'on appelle RIM. Alors ça a évolué, à un moment donné ça n'allait pas. Ça donnait des douleurs terribles au niveau du nez et au niveau de la tête, tout ça. Après quoi, on a dit non, il faut aller examiner ça. Après l'examen, on a dit que c'est justement la sinusite. Alors de là, on a donné des médicaments, on m'a prescrit quand même les médicaments comme les antibiotiques, mais ça a essayé de. Mais l'année passée, ça a éclaté encore. C'était comment alors? Ça venait toujours comme des rimes. On donnait les médicaments justement des rimes, et quand ça prenait fin, ça devenait tout justement sinusite. Et cela continue jusqu'à présent, alors je ne sais pas si l'éviter peut me dire quoi. On a même donné les médicaments traditionnels, ça n'a pas aidé. Et ma tante aussi possédait ça, on a donné toujours des médicaments traditionnels, ça a aidé pour la tante, ça va maintenant. Mais pour moi, vraiment, je ne sais pas ce que l'éviter peut me dire jusqu'à présent. Vraiment, on m'a prescrit des médicaments qui pourraient aider. Et le docteur a dit que ça va aider. Mais jusqu'à présent, je tombe toujours dans la sinusite là, comme ça.
Oui. Bien. Docteur Jérôme.
Bien, merci, monsieur qui m'appelle Debouni. Hein.
Mmh.
Alors, je voudrais... Allô?
Oui, allez-y, docteur.
Je voudrais vous dire ceci.
Mmh.
Quand vous présentez, comme je l'ai dit... la sinusite aiguë, comme je l'ai expliqué, le point de départ, c'est rhinogène, c'est-à-dire ça part le rhume. Le rhume, comme par contiguïté muqueuse, peut être finalement aller jusqu'à entraîner ce que vous avez dit, c'est la sinusite, j'ai expliqué déjà, je n'y reviens pas. Mais néanmoins, ce qu'il faut savoir, par rapport à votre traitement, il faut savoir le principe, vous devez d'abord décongestionner votre nez. Quand vous n'avez pas de congestion le nez, assécher le nez, vous êtes presque sûr que vous n'y parviendrez pas. Vous ne parviendrez pas à guérir votre sinusite. Mais aussi, peut-être que le problème qui se pose, c'est que vous deviez avoir été dans un environnement, peut-être que vous avez des prédispositions à développer des phénomènes allergiques de manière anormale, et puis vous avez d'autres problèmes qui peuvent faire en sorte que votre nez continue à couler abondamment au regard des différents facteurs environnementaux qui peuvent être à l'origine de ces agressions multiples de votre muqueuse.
Mmh.
Donc ici, moi, je vous conseille de voir le médecin auto-immunologique. Mais dans tous les cas, on doit d'abord s'assurer de votre terrain immunologique, parce que vous savez, il y a des formes de rhinosinusite qui sont des formes graves qui viennent sur le terrain spécifiques, des terrains de VIH, etc. Tous ces différents terrains peuvent faire que votre rhume, si votre rhume, tant que vous n'arrivez pas à le carrer, sachez que vous êtes déjà candidat à faire la sinusite, parce que tout part du nez. Et tant que vous n'arrivez pas à assécher correctement, à soigner correctement l'inflammation, à régler les problèmes de l'allergie environnementale, au regard des allergènes environnementaux, que vous avez dans votre milieu, il faut vous rassurer que ce problème va être un cycle vicieux et vous donner l'impression que cela est une infection qui ne peut pas être guérie. Mais en réalité, vous êtes devant des facteurs d'aggravation permanente et qui peuvent faire que vous ne soyez pas en mesure d'être très à l'aise dans la gestion de cette infection.
Voilà. Didier nous appelle de Kolwezi, Didier Kunonga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jordi, et bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation, Didier?
Oui, bon, en fait, j'ai suivi avec attention, d'ailleurs, comment l'invité a présenté les sites et comment il a donné les mêmes. En fait, moi, je suis ici qui a maintenant 10 mois. Mais, heureusement, à chaque fois, c'est toujours le rhume qui revient. Quand elle souffre un peu, quand elle fait le fièvre, c'est toujours le rhume qui est passé à chaque moment. Alors, je suis allé voir un infirmier, un pharmaceutique, qui est un pharmacien, qui a posé un peu le problème. Comment est-ce que le rhume, c'est la peine comme ça? Il m'a parlé d'un truc disant que, peut-être à sa naissance, on n'a pas suffisamment aspiré l'eau, quelque chose du genre. Et pour les enfants, ça peut continuer, le film peut être jusqu'à environ 5 ans et ça finira comme ça. Alors je me demande, à cette allure, à ces rythmes, on peut déjà commencer à croire que c'est des sinusites ou ça peut muter aussi, je ne sais pas. On peut craindre déjà qu'elle pourra en fait manifester quelque chose de sinusite après ou c'est déjà le sinusite là.
Oui, vous dites que la personne a un rhume qui ne se termine pas.
Mais bon. Ça reste un moment après.
Après, ça reprend. Voilà, merci Didier. Docteur, vous avez suivi la préoccupation de Didier. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon, je n'ai pas très bien saisi. Il me parle de. Si vous pouvez me résumer, parce qu'il parle de des rhumes qui ne se terminent pas,
voilà.
Si j'ai compris.
Voilà,
mais après la suite, qu'est-ce qu'il demande de moi par rapport à un rhume qui ne se termine pas?
Bon, il veut savoir, est-ce que c'est les signes de cette maladie? Est-ce que cette personne souffre de la sinusite ou bien il s'agit d'autre chose?
Ok, bien, merci de la question. Cher ami qui m'appelle l'écologie, j'aimerais vous dire simplement que à l'instar de nombreux d'entre nous, surtout beaucoup qui confondent un peu sinusite avec rhume. En fait, sinusite, c'est une entité, c'est une inflammation dynamiqueuse. En fait, c'est une maladie qui a bien sûr un certain nombre de symptômes dont le rhume constitue le symptôme. C'est ce que nous appelons dans notre jargon médical la rhinorrhée. Alors, la rhinorrhée, en fait, ici, est considérée comme étant un signe d'une sinusite. Mais arriver à établir avec certitude qu'il s'agit d'une sinusite, nous procédons d'abord à des examens radiologiques. Et c'est la radiologie qui constitue le moyen certain d'établir l'existence d'une sinusite. En dehors de ce moyen, tout le reste ne sont que des présomptions cliniques. Vous pouvez juste faire des présomptions, dire que voilà, au regard de ces signes que vous présentez, nous pensons qu'il s'agit probablement d'une sinusite. Mais en dehors de la radiographie, nous n'avons pas, en dehors des radiographies, d'autres moyens de sinusite pour établir l'existence d'une sinusite.
Voilà. Est-ce qu'on peut dire, docteur, qu'une personne qui vit, par exemple, dans un environnement où il fait frais, généralement, peut facilement développer la sinusite par rapport à celle, à une autre personne qui vit dans un milieu où il fait chaud?
Ah oui, mais ça c'est très important parce que vous savez que au niveau de l'environnement, quand on sait le foie, vous savez que le foie entretient une certaine vasoconstriction. Et aussi, il faut dire, quand on dit vasoconstriction, c'est-à-dire que les fosses nasales, la muqueuse nasale devient, comme on dit, au lieu d'être augmentée de volume, elle se rétrécit en fait. J'utilise un jargon. Mais dans la vaso, dans le chaud, c'est la vasodilatation de la muqueuse de prendre de grandes distances. Mais par rapport à ce qu'on appelle foie, ce n'est pas vraiment en fait la température qui a un grand rôle, mais c'est plutôt les allergènes, les polluants qui sont amenés, qui sont dans cet environnement, qui peuvent expliquer surtout les accès inflammatoires aux dépens de la muqueuse.
En fait, c'est ce qui arrive. Mais dans tous les cas, les modifications de température dans un milieu a des retentissements au niveau des modifications, soit de la perméabilité de la muqueuse, avec la modification du pH, etc. Donc vous avez tout un tas de problèmes qui peuvent alors expliquer la genèse. Mais en réalité, c'est ce que cette modification environnementale a comme influence sur la muqueuse qui peut générer ou non la sinusite. Tous les problèmes n'est pas là. Mais ce sont des causes, des facteurs en fait indirects. Mais jamais quelqu'un peut dire que parce que je suis devant le foie, que j'attrape la sinusite, ce n'est pas vrai. Mais c'est les modifications induites par l'infection muqueuse, induites par les phénomènes environnementaux qui suivent à l'origine directement les accès inflammatoires, etc.
Oui, alors docteur, cette inflammation du sinus peut se manifester par une sensation de sécheresse au niveau du nez?
Oui, ça peut se manifester par une sensation de sécheresse. Vous allez même avoir l'impression que les malades aura une lourdeur, n'est-ce pas? Une sensation de lourdeur, pesanteur. Il est tenté de sentir sa tête. De la tête est lourde, il la sent. Alors qu'en réalité, les conditions normales, nous ne devrions pas sentir notre tête. Mais les malades peuvent sentir également sa tête avec parfois une sensation de sécheresse dans certaines formes particulières de sinusite.
Alors, vous l'avez déjà dit, mais il est peut-être important d'y revenir par rapport à ceux qui disent que cette maladie, la sinusite, est une maladie chronique. On ne peut jamais guérir de la sinusite parce que après les traitements, elle va toujours revenir.
Mais je l'ai toujours dit, nous le disons souvent à beaucoup de nos malades, on a l'impression que une maladie bien comprise, dont la physiopathologie est connue, dont les mécanismes de circulation sont connus, à ce moment-là, je ne vois pas. Et puis, ces mécanismes de sensation connus sont évitables, peuvent être traités adéquatement. Moi, je ne vois pas comment on appellerait cela une maladie incurable. Mais le grand problème, c'est lequel, M. Jody, c'est que tous ces patients qui ont l'impression d'avoir, de faire des récurrences, des crises récurrentes, des sinusites, seulement s'exposent à des mêmes facteurs qui ont été à l'origine de l'installation de la crise précédente. C'est tout ce qu'il faut dire simplement. Imaginez-vous, je vous donne un exemple. Vous avez l'ascaridiose aujourd'hui. Mmh. Vous avez des ascaris, par exemple. Et que vous allez vous retrouver, vous prenez votre traitement contre l'ascaridiose, et vous retrouvez finalement que vous contractez encore de nouveau pour des aliments qui peuvent contenir ces différents éléments. À ce moment-là, de nous faire encore l'ascaridiose, oui ou non? Vous la faites parce que vous êtes exposé, vous avez été prendre des aliments qui comportaient ces différents microbes. Et là, est-ce qu'il faut-il appeler que c'est une maladie incurable parce que vous faites des récurrences, ou bien c'est un problème de différents mécanismes d'installation de maladie qui se retrouvent dans votre propre compte? C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Vous êtes toujours, tout le temps, en train de vous exposer à la poussière, à ceci, à cela. Et parfois, votre prédisposition muqueuse fait que vous pouvez faire des accidents inflammatoires. Vous faites, quand quelqu'un a une grippe, par exemple, la grippe, la fièvre typhoïde, parce que la fièvre et la grippe, en fait, typhoïde, fragilise la muqueuse de sinus. À ce moment-là, vous allez forcément faire la sinusite à partir de la grippe ou bien la fièvre typhoïde. Tout ça vous prédispose à faire la maladie, mais sans que la maladie, fortement, ne soit incurable. C'est ça que les gens doivent comprendre. Donc, vous vous exposez aux mêmes facteurs qui ont été à l'origine du déclenchement de votre dernière crise. Mmh. Et vous avez l'impression que la maladie elle-même n'est pas incurable, alors que la maladie l'est, mais simplement les facteurs d'installation des gènes de la maladie sont tous permanents en vous. C'est ce qui rend la maladie, qui vous crée un cercle vicieux et qui rend anormalement, paradoxalement, votre maladie comme étant incurable. C'est ça, en fait, le vrai problème.
Voilà. Gaël Dixon nous appelle de Lubumbashi. Bonjour, Gaël.
Bonjour, Nadine. Bonjour aussi à notre invité.
Parlez un peu plus fort. Quelle est votre préoccupation?
Ok, j'aimerais juste demander à notre invité la durée de l'incubation de cette maladie. Et aussi, tout ce qu'on nous a parlé de l'écoulement nasal, parce que j'ai toujours remarqué que l'écoulement nasal se fait toujours dans la généralité, pendant la saison sèche, pendant la saison sèche. Est-ce que, lorsque nous constatons l'écoulement nasal, faut-il me recourir au médecin pour l'examen ou lorsque par exemple on a le climat nasal, on peut faire semblant de comme si de rien n'était. Comme je le faisais encore avant qu'il ne puisse finir avec sa phrase, il a parlé aussi de jeu de poussière. Donc lorsque la personne est en train de jouer avec les poussières. Okay. Je ne sais pas parce que ici, l'activité principale de la plupart des gens, c'est le break. Souvent, la période de la saison, pendant la période de la saison sèche, c'est plutôt la saison sèche, les gens se disent toujours à faire des briques. Mm-hmm. Et on les appelle le briquetier F. Et si ça se calme, jouer avec la poussière, et aussi ces gens-là qui jouent avec la boue, et la terre imbibée de l'eau, parce que réellement, ça peut aussi causer
la sinusite.
Ça peut aussi entraîner cette maladie.
D'accord. Merci Gaël Dixon de Lubumbashi. Arlette nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi. Bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Question est de savoir que l'invité plutôt me dise si ce est-il le rhume simple ou la sinusite. C'est-à-dire, à chaque fois quand je me réveille de mon sommeil,
oui.
Soit je commence à éternuer, soit il y a toujours l'écoulement de rhume. Chaque matin donc, plutôt la chambre est bien aérée. Je prends le médicament. Parfois, ça termine, mais parfois, ça recommence. Et je me demande, le fait d'avoir des larmes aux yeux, où je peux savoir si c'est possible qu'ils me disent si des larmes aux yeux est aussi synonyme de la sinusite ou c'est autre chose. Donc, ça infecte aussi les yeux ou seulement ça s'arrête au niveau du nez. Voilà ma question.
D'accord, merci. Ismaël Mumpoy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, je suis Daniel Kachama. Bonjour à tout le monde.
Quelle est votre question, Ismaël?
Je suis victime de cette maladie. Je suis avec cette maladie 5 ans. Je vous dis, cette
maladie. La liaison téléphonique n'est pas bonne, Ismaël. Désolé, à essayer de... Oui.
Oui.
Allez-y maintenant.
Tout qui sortait du nez plus épuisant. Et ça me faisait,
Alors, désolé, la connexion, la liaison téléphonique n'est pas bonne, Ismaël. Je reviens à vous, docteur Jérôme. Vous avez suivi Didier, non, Gaël de Lubumbashi, qui demande quelle est la durée d'incubation de cette maladie.
Bon, merci, monsieur Jody. Merci les invités, parce que je constate que c'est un sujet qui a un grand intérêt. Au regard de questions que vous posez, en fait, vous avez posé deux principales questions. Hier, c'était par rapport à la durée d'incubation que je réponds tout de suite. Et la deuxième question, je crois, c'était en rapport avec...
Il a parlé des écoulements nasales. Est-ce que peut-on craindre le développement de cette maladie chaque fois qu'on a des écoulements nasales?
Voilà, c'est ça. Et puis, il y a aussi la dame qui a posé la question sur est-ce qu'il y a association d'écoulement et l'armoiement.
Voilà.
Est-ce qu'il y a un contexte qui va suivre dans un contexte de sinusite. Voilà. Alors, je dirais ceci, comme je l'ai dit, pour partir d'une sinusite aiguë, on parle généralement d'une rhinite, qui est expliquée. La rhinite a sa période d'incubation et généralement, les formes simples, vous êtes autour de 2 à 6 jours. Ce sont des formes simples. Mais dès que vous arrivez autour de 12 jours, 10 à 12 jours, sans résorption de l'inflammation, donc ça dit que la maladie évolue maintenant vers l'atteinte des sinus. Donc étant donné qu'il s'agit d'une même muqueuse, c'est un continuum, comme je l'ai dit, vous partez des fosses nasales et puis cela se continue au niveau des sinus. Donc au-delà de 10 à 12 jours, déjà vous êtes, déjà après que vous avez passé toute votre phase normale de rhinite non traitée ou rebelle, et cela va évoluer vers la sinusite. Et par rapport au découlement, au rhume chronique, je ne cesserai de le dire que la sinusite aiguë, comme je l'ai dit, parmi les facteurs, comme l'avons dit, la porte d'entrée rhinogène, le nez. Donc, toutes les fois que vous faites des écoulements nasaux, qu'ils soient aseptiques ou non, peuvent finir par atteindre la muqueuse sinusienne par contiguïté mixte, comme on le sait, donc par un continuum muqueux. Cela va faire que, au départ, le tableau qui est parti d'une gélinite peut aller vers une rhinosinusite, ce qui est une entité. Et c'est comme ça qu'actuellement on parle beaucoup plus des rhinosinusites, parce que il ne s'agit pas souvent les atteintes isolées de la fosse nasale, de moins en moins n'existent pas. C'est toujours des atteintes des fosses nasales qui, par un continuum muqueux, évoluent vers l'atteinte. Donc, quand on fait un rhume, quand il y a un écoulement nasal, vous êtes un candidat, si ce rhume n'est pas traité correctement, à développer une sinusite, quoi de plus normal, parce qu'il s'agit bien d'un mécanisme intime. Mais au regard de la question, écoulement nasal et l'armement, il faut dire aussi que parmi les signes normaux, naturels d'une sinusite, les écoulements, les larmoiements ne sont pas décrits. Mais néanmoins, qu'est-ce
elle
qui
a,
arrive
elle a parlé aussi des éternuements. Elle éternue chaque matin.
Des éternuements, ok, voilà. Et les éternuements souvent signent une irritation mécanique. C'est-à-dire que quand quelqu'un éternue, généralement il est en contact avec un agent, un allergène, agresseur, qui a irrité sa muqueuse. Et la réponse à l'irritation muqueuse, c'est ce qui se traduit bien entendu par l'éternuement. Et beaucoup de cas, dans la littérature, on considère l'éternuement comme étant un signe parfois spécifique d'une irritation, mais aussi associé même parfois à des allergies, où vous avez la présence d'un allergène qui, au contact de la muqueuse, déclenche à l'organisme cette impression de pouvoir, cette sensation de pouvoir éternuer. Et on ne peut pas dire a priori que l'éternuement est toujours associé à une sinusite, mais l'éternuement signifie irritation mécanique, ça peut être une irritation muqueuse, au regard d'un facteur exogène, environnemental probablement, et qui, à la longue, déclenche ce désagrément-là qu'on appelle éternuement.
Alors docteur, pour terminer, peut-on prévenir la sinusite?
Oui, mais la prévention, mais c'est ça la règle. La prévention, quand on sait comment la sinusite s'installe, on doit également savoir comment la prévenir, naturellement. Et la prévention veut dire quoi? Veut dire que ça dépend, et il faut dire aussi que, ça j'ai oublié de le dire, la sinusite, comme je vais vous le dire, il y a les sinus qui se développent selon les âges. Ça, c'est pas, on va en développer peut-être à d'autres occasions. Vous avez les petits enfants, les nouveau-nés, qui n'ont que les sinus ethmoïdales. C'est que les ethmoïdales. Mais quand vous allez au-delà, peut-être de 4-5 ans, où les sinus maxillaires commencent à se former, mais pour les sinus frontales, vous l'avez même, la fin du développement peut arriver même jusqu'à 18 ans. Et par rapport aussi aux stéloïdaux, on pouvait avoir peut-être son existence autour de 4-7 ans. Donc, voilà, d'abord il faut l'expliquer par rapport au contexte de l'âge, où tous les sinus ne surviennent pas, ne n'existent pas à tout âge. Vous avez ceux qui existent à la naissance, qu'on appelle les sinus ethmoïdales, et d'autres existent au fil du temps, au fur et à mesure que l'enfant grandit.
Alors, qu'est-ce qu'il faut-il faire pour prévenir cette maladie rapidement, docteur?
Alors, comment il faut prévenir la maladie? C'est qu'il faut éviter tout ce qui peut être à l'origine de l'obstruction nasale, tout ce qui peut être à l'origine de l'inflammation, tout ce qui peut être à l'origine, bien sûr, de l'infection. Et c'est là, quand vous avez levé ces problèmes-là et vous soignez bien sûr l'environnement, tout facteur, tout agent irritant qui peut entraîner l'obstruction du nez, c'est ça qu'il faut éviter. Et on conseille de temps en temps d'éviter les environnements pollués, d'éviter, surtout ceux qui ont des sinusites dentaires, les caries dentaires, s'il faut les prévenir, ou les sinusites dentaires essentiellement. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire en termes simples.
Merci, docteur Jérôme Sokolo. Je rappelle que vous êtes spécialiste en otorhinolaryngologie. Merci, bonne journée et à la prochaine.
Merci beaucoup, monsieur.